La nuit était presque tombée quand Ichabod arriva au château du seigneur Van Tassel. Il y trouva réunis en foule l'orgueil et la fleur des pays circonvoisins. De vieux fermiers, race sèche à face de cuir, aux habits et aux culottes confectionnées à la maison, aux bas bleus, aux énormes souliers et aux splendides boucles d'étain. Leurs petites femmes, pétulantes et ridées, aux bonnets gros frais, serrés, aux robes courtes à taille longue, aux jupons façonnés au logis, avec des ciseaux et des pelotes et d'éclatantes poches d'indiennes suspendues aux côtés. De fortes filles, presque aussi mal affublées que leur mère, excepté quand un chapeau de paille, un joli ruban, ou d'aventure une robe blanche, témoignaient des innovations de la ville. Les fils, en habits courts, à large basque, avec des rangées de boutons de cuivre prodigieux, et leurs cheveux généralement en queue, suivant la mode du temps, surtout quand ils avaient pu se procurer une peau d'anguille pour la circonstance, étant la dite peau réputée dans tout le pays très efficace pour nourrir et fortifier les cheveux. Mais le héros de la fête, c'était Brown Bounce, venu à l'assemblée sur son coursier favori. Daredevil, affronte démon. Créature comme lui-même, pleine d'ardeur et de malice, et que nul autre que lui ne pouvait gouverner. Il était de fait connu pour préférer les animaux vicieux, abandonnés à toutes sortes de manèges, qui mettaient continuellement le cavalier en danger de se rompre le cou, car il tenait un cheval docile et bien dressé pour un digne d'un franc luron. J'aurais bien envie de m'arrêter pour m'apesantir sur le monde de charme qui se dévoila au regard enchanté de mon héros, quand il fit son entrée dans le salon d'apparat du seigneur Van Tassel. Non ceux des robustes filles de fermiers avec leurs appétissants étalages de rouge et de blanc, mais les charmes solides d'une vraie table de thé hollandaise à la campagne pendant la riche saison d'automne. Une étourdissante accumulation d'immenses plats remplis de gâteaux d'espèces différentes et presque impossibles à décrire, connus seulement des ménagères hollandaises expérimentées. On y voyait le pesant gâteau de noisettes, le holykoek plus délicat et le kruller qui casse et qui s'émiette. Gâteau sucré et non sucré, gâteau au gingembre et gâteau au miel, et toute la famille des gâteaux. Et puis c'était des tourtes aux pommes, des tourtes aux pêches et des tourtes aux citrouilles, sans parler de tranches de jambon et de bœuf fumé. Et puis encore de délicieux plats de prunes, de pêches, de poires et de coings en conserve. Pour ne rien dire, des alos grillés, des poulets rôtis, ainsi que des jattes de lait et de crème, le tout confondu pêle-mêle, à peu près comme je les ai énumérés, la théière maternelle placée au centre de là, faisant monter ces nuages de vapeur. Le ciel me vienne en aide, je manque de haleine et de temps pour étudier ce banquet comme il le mérite, et je suis bien trop pressé de continuer mon histoire. Heureusement, Ichabod Crane n'était pas dans un aussi grand embarras que son historien, et il rendit amplement justice à toutes ses friandises. C'était une bonne et reconnaissante créature dont le cœur se dilatait à mesure que sa peau se gonflait sous la bonne chair et dont la nourriture éveillait les esprits, comme fait la boisson pour certains hommes. Il ne pouvait d'ailleurs s'empêcher de rouler en mangeant ses gros yeux autour de lui et de se bercer de la possibilité qu'il pourrait un jour être possesseur de toute cette scène de richesse et de splendeur presque inimaginable. Alors, pensait-il, comme il aurait bientôt fait de montrer les épaules à la vieille école, de faire claquer ses doigts sous le nez de Hans Van Ripper et de tout autre avare mécène, et de chasser à grands coups de pied de chez lui tout pédagogue ambulant qui aurait l'audace de le traiter de camarade. Le vieux Balthus Van Tassel circulait au milieu de ses hôtes, le visage dilaté par le contentement et la bonne humeur, rond et souriant comme la pleine lune. Ses attentions hospitalières étaient courtes mais expressives. Se bordant à une poignée de main, une tape sur l'épaule, un bruyant éclat de rire, et l'invitation pressante « Allez, tombez sur les plats et qu'on se serve !» Bientôt, le son de la musique, partant de la pièce commune, ou grande salle, vint donner le signal de la danse. Les musiciens se composaient d'un vieux nègre à tête grise, qui avait été l'orchestre ambulant du voisinage, pendant plus d'un demi-siècle. Son instrument était aussi vieux, aussi délabré que lui. La plupart du temps, il raclait sur deux ou trois cordes, accompagnant d'un mouvement de tête chaque mouvement de l'archet, s'inclinant presque jusqu'à terre et frappant du pied toutes les fois qu'un nouveau couple allait partir. Ichabod se piquait autant de son talent pour la danse que de ses facultés vocales. Ce jour-là, il n'y eut pas un membre, pas une fibre en lui qui restasse inoccupée. Et si vous aviez vu sa charpente indécise, en pleine activité, trépignant au travers de la chambre, vous auriez cru que Saint Vitus lui-même, ce bienheureux patron de la danse, figurait en personne devant vous. Faisait l'admiration de tous les nègres qui, s'étant rassemblés, de tous âges et de toute grandeur, de la ferme et du voisinage, se tenait debout, formant une pyramide de faces noires reluisantes à chaque porte et à chaque fenêtre, contemplant cette scène avec ravissement, roulant leurs blanches prunelles et montrant de grimaçantes rangées de palettes d'ivoire qui allaient d'une oreille à l'autre. Mais comment le fouetteur de bambins pouvait-il n'être pas joyeux et animé, et la dame de ses pensées, dansait avec lui et souriait gracieusement en réponse à toutes ses œillades amoureuses. Tandis que Brambons, douloureusement travaillé par l'amour et la jalousie, était à méditer tout seul dans un coin. La danse achevée, Ichabod fut attiré vers un groupe de gens plus posés qui, avec le vieux Van Tassel, était assis, fumant à un bout du portique, faisant des commérages au sujet du vieux temps et débitant lourdement d'interminables histoires à propos de la guerre. Cette petite province, à l'époque dont je parle, était une de ces localités hautement favorisées qui abondent en chroniques et en grands hommes. Les troupes anglaises et américaines l'avaient côtoyée pendant la guerre. Elle avait, par conséquent, été le théâtre de maraudages infestés de réfugiés, de vachers et de toute espèce de chevalerie des frontières. Il s'était écoulé juste assez de temps pour permettre à tous les conteurs d'histoire d'orner leur récit d'une gentille petite fiction et, dans la confusion de leurs souvenirs, de se faire les héros de tous les exploits. C'était l'histoire de Dofus Martling, un Hollandais colossal à barbe bleue, qui aurait pris une frégate anglaise avec un vieux canon de 9 en fer, d'un parapet en terre, et si son canon n'avait pas éclaté à la 6e décharge. Et puis un vieux gentleman, que je ne nommerai pas, c'est un miner beaucoup trop riche pour qu'on en parle légèrement, qui, à la bataille de White Plains, c'était un excellent maître d'armes, avait paré une balle de mousquet avec une petite épée, de telle sorte qu'il l'avait positivement entendu siffler autour de la lame et sortir par la poignée. En preuve de quoi, il était à tout heure prêt à montrer l'épée, dont la poignée était un peu tordue. Oh, il y en avait encore plusieurs qui s'était également distingué sur le champ de bataille, dont il n'était pas un seul qui ne fut persuadé qu'il avait considérablement contribué à mener la guerre à bonne fin. Mais tout cela n'était rien en comparaison des histoires de revenants et d'apparitions qui suivirent. Le voisinage est riche en trésors légendaires de cette nature. Les contes et superstitions locaux s'épanouissent au mieux dans ces retraites bien close, où régna toujours le silence, mais sont foulés aux pieds par l'élégant manche changeant qui forme la population de la plupart de nos campagnes. Et puis, il n'y a pas d'encouragement pour les fantômes dans la plupart de nos villages, car ils ont à peine eu le temps de dormir leur premier somme et de se retourner dans leur cercueil, que déjà les amis qui leur ont survécu sont éloignés du voisinage. De sorte que quand ils s'échappent la nuit pour faire leur ronde, ils ne trouvent personne de connaissance à qui s'adresser. Voilà peut-être ce qui fait que nous n'entendons guère parler de fantômes que dans nos vieilles communautés hollandaises. La cause immédiate, cependant, de la prédominance des histoires surnaturelles dans ces parages tenait sans doute à la proximité du vallon endormi. L'air même qui soufflait de cette région enchantée vous était fatal. Il respirait une atmosphère de songe et d'imagination qui infectait toute la contrée. Et plusieurs des habitants du vallon endormi se trouvaient à la réunion chez Van Tassel, et comme d'habitude, narraient leurs bizarres et merveilleuses légendes. Maintes effrayantes histoires furent racontées sur les cortèges funèbres, cris et lamentations de deuil, vues et entendues près du grand arbre où l'infortuné major André fut saisi, lequel se trouvait dans le voisinage. Il fut aussi fait mention de la femme vêtue de blanc qui hantait la sombre vallée de Haven Rock, et qu'avant l'orage, on entendait souvent pousser des cris inarticulés pendant les nuits d'hiver, ayant péri là dans la neige. Toutefois, la plus grande partie de ces histoires roula sur le spectre favori du vallon endormi, le cavalier sans tête, que l'on avait dernièrement encore plusieurs fois entendu battant le pays, et qui, disait-on, attachait la nuit son cheval au milieu des tombes dans le cimetière. La position isolée de cette église semble en avoir fait de tout temps la retraite favorite des esprits inquiets. Elle est assise sur un monticule et entourée de courbarils et d'ormes élevés, du milieu desquels ses murailles décentes, blanchies à la chaux, brillent d'un modeste éclat, comme la pureté chrétienne perçant à travers les ombres de la solitude. Une pente douce conduit de là vers une nappe d'eau argentée et bordée de grands arbres, entre lesquels on peut découvrir par échappée les collines bleues de l'Hudson. À voir le cimetière que l'herbe a envahi, où les rayons de soleil semblent dormir si profondément, on penserait que là au moins les morts peuvent reposer en paix. D'un côté de l'église s'étend un grand vallon boisé, le long duquel un large ruisseau court en mugissant parmi des rocs brisés et des troncs d'arbres abattus. Sur une partie du ruisseau, d'un noir foncé, non loin de l'église, était anciennement jeté un pont de bois. La route qui y menait et le pont lui-même étaient couverts d'ombres épaisses par des arbres qui surplombaient et qui lui donnaient un aspect lugubre, même en plein jour, mais produisaient la nuit une effrayante obscurité. C'était une des retraites favorites du cavalier sans tête, l'endroit où on le rencontrait le plus fréquemment. Fut racontée l'histoire du vieux Brower, très hérétique et incrédule en fait d'apparition. Comme quoi, il trouva le cavalier revenant de son excursion dans le vallon endormi et fut obligé de monter en croupe derrière lui. Comme quoi, ils franchirent au galop, buissant des broussailles, collines et marais, jusqu'à ce qu'ils atteignissent le pont. Et quand le cavalier se changea soudain en squelette, jeta dans le ruisseau le vieux Brower et d'un bond s'échappa sur les cimes des arbres dans un coup de tonnerre. Cette histoire trouva sur le champ son égal dans la trois fois merveilleuse aventure de Brom Bones, qui traita dédaigneusement le essoi galopant d'écuyer manqué. Il affirma que, revenant une nuit de Sing Sing, village voisin, il avait été rattrapé par ce cavalier de minuit. qui lui avait proposé de courir avec lui pour un bol de punch, et aurait bien certainement gagné, car Harder de Ville battait le cheval fantôme à plate couture, si juste au moment où ils étaient arrivés au pont de l'église, le S-Wan avait bondi comme une flèche et disparu dans un sillon de feu. Tous ces contes, faits de ce ton assoupi, mystérieux, avec lequel on s'entretient dans l'ombre, les figures des auditeurs, qui de loin en loin seulement empruntaient un passager éclat à la lueur éblouissante d'une pipe, pénétraient profondément dans l'esprit d'Ichabod. Il s'acquitta en nature avec de copieux extraits de son inestimable auteur, Cotton Mather, et ajoutâmes un événement merveilleux qui s'était passé dans l'état où il était né, le Connecticut, et les effrayantes apparitions qu'il avait vues dans ses courses nocturnes à travers le vallon endormi. La joyeuse réunion se dispersa peu à peu. Les vieux fermiers rassemblèrent leurs familles dans leurs chariots, que pendant quelque temps on entendit s'engager avec fracas dans les chemins creux et remonter les collines lointaines. Quelques-unes des jeunes paysannes se juchèrent sur des coussinets derrière leurs bergers favoris, et leurs joyeux éclats de rire, mêlés au bruit des sabots de cheval, se répétèrent le long des bois silencieux, s'affaiblissant de plus en plus jusqu'à ce qu'ils s'éteignissent graduellement dans le lointain. Et cette scène récente de tapage et de folie ne fut plus que silence et abandon. Ichabod seul resta derrière, suivant la coutume des amoureux de campagne, pour avoir un tête-à-tête avec l'héritière, pleinement convaincu qu'il était maintenant sur la grande route du succès. Que se passa-t-il à cette entrevue? C'est ce que je n'ai pas la prétention de dire, car la vérité est que je n'en sais rien. Cependant, il faut, j'en ai peur, que les choses aient bien mal tourné, car à coup sûr, il sortit rapide, pas très longtemps après, d'un air complètement désolé, l'oreille basse. Oh, ces femmes, cette jeune fille m'a-t-elle donc fait que jouer un de ces tours de coquette? Les encouragements qu'elle avait donnés au pauvre pédagogue n'étaient-ils simplement qu'une ruse pour assurer la conquête de son rival? Dieu seul le sait, pas moi. Qu'il me suffise de dire qu'Ichabod s'échappa sans bruit, de l'air d'un homme qui avait mis à sac un poulailler plutôt que le cœur d'une jolie fille, sans regarder à droite ou à gauche pour observer la scène d'opulence rustique qu'il avait si souvent couvé des yeux. Il s'en fut droit à l'étable et, au moyen de plusieurs vigoureux coups de poing et coups de pied, tira fort disgracieusement son cheval des confortables quartiers où il s'était profondément endormi, et rêvait montagne de blé et d'avoine, vallée tout entière de sainfoin et de luzerne. On touchait précisément à l'heure magique de la nuit, quand Ichabod, lourd de cœur et la tête baissée, reprit le chemin du logis, le long des flancs des collines élevées qui dominent Tarrytown, et qu'il avait si gaiement traversé dans l'après-midi. La nature était aussi lugubre que lui. À ses pieds, tout au fond, le Tappahannsee étendait sa sombre et indistincte masse d'eau, où se voyait, çà et là, le mât élancé d'un sloop à l'ancre sous la côte. Au milieu du silence de mort de minuit, il pouvait même entendre l'aboiement du chien de garde veillant sur la rive opposée de l'Hudson. Mais il était si vague, si faible, qu'il lui donnait seulement l'idée de son éloignement de ce fidèle compagnon de l'homme. De temps à autre aussi, la cocorico, longtemps suspendue d'un coq éveillé par erreur, s'échappait au loin, bien au loin, de quelques métairies perdues entre les collines. Mais à son oreille, c'était comme un bruit rêvé. Aucun signe de vie n'apparaissait aux environs, si ce n'est parfois le mélancolique gazouillement d'un grillon, ou bien encore le cri perçant et guttural d'une grenouille partie d'un marais voisin, comme si elle eût mal dormi et se fût retournée tout à coup dans son lit. Toutes les histoires de fantômes et de lutins qu'il avait entendues dans la soirée lui revinrent alors en foule à l'esprit. La nuit se faisait de plus en plus noire. Les étoiles semblaient plonger plus avant dans le ciel, et des nuages, chassés par le vent, les dérobaient parfois à sa vue. Il ne s'était jamais senti si lugubrement isolé. Et puis, il approchait de l'endroit même où l'on avait placé la scène de maintes histoires de revenants. Au milieu de la route se dressait un énorme tulipier, qui, semblable à un géant, s'élevait au-dessus de tous les autres arbres du voisinage et formait une sorte de point de repère. Ses branches étaient pleines de nœuds et fantastiques, assez grosses pour servir de troncs à des arbres ordinaires, et leurs ramifications descendaient presque jusqu'à terre pour s'élancer de nouveau dans l'air. Il se rattachait à la tragique histoire du malheureux André qui avait été fait prisonnier tout près de là. Le vulgaire le regardait avec un mélange de respect et de superstition, tant par sympathie pour le sort de celui dont le mauvais étoile lui avait fait porter le nom, qu'à cause des récits d'apparitions étranges et de funèbres lamentations que l'on faisait à son sujet. Comme Ichabod approchait de cet arbre sinistre, il se mit à siffler. Il s'imagina qu'on répondait à son sifflement. Ce n'était qu'une rafale qui passait, furieuse, balayant les branches sèches. Quand il fut un peu plus près, il crut voir quelque chose de blanc se balancer au milieu de l'arbre. Il fit une pause et cessa de siffler. Mais en regardant plus attentivement, il découvrit que c'était un endroit où l'arbre avait été touché par la foudre et où la partie blanche du bois restait à découvert. Et tout à coup, il entendit un gémissement. Ses dents claquèrent et ses genoux choquèrent contre la selle. Ce n'était que le frottement d'une grosse branche contre une autre, tourmentées qu'elles étaient par le vent. Il dépassa l'arbre sans encombre, mais de nouveaux périls l'attendaient. À 200 yards de l'arbre environ, un petit ruisseau traversait la route et plongeait dans un vallon marécageux à l'épais ombrage connu sous le nom de marais de Willey. Quelques blocs informes placés côte à côte servaient de pont pour franchir ce courant. Du côté de la route où le ruisseau entrait dans le bois, un massif de chênes et de châtaigniers, entrelacé d'un épais tissu de ceps de vigne sauvage, y répandait une caverneuse obscurité. Passer ce pont constituait la plus rude épreuve. C'était précisément à cette place que le malheureux André avait été arrêté. C'était sous le couvert de ces châtaigniers et de ces ceps de vigne qu'ils étaient cachés les fantrouches soldats qu'ils surprirent. Ce courant a toujours depuis été considéré comme un endroit où ils revenaient. Et ce sont des sentiments de terreur que ceux de l'écolier qui doit y passer seul une fois la nuit venue. Comme il approchait du ruisseau, son cœur commença à battre. Il fit appel cependant à toute sa résolution, donna à son cheval une demi-douzaine de coups de pied dans les côtes et essaya de s'élancer bravement sur le pont. Mais au lieu de charger, le vieil animal pervers fit un mouvement latéral et courut obliquement sur la palissade. Ichabod, dont ce regard augmentait les craintes, tira les rênes de l'autre côté et lui allongea de vigoureux coups avec le pied contraire. Ce fut en vain. Son coursier partit, il est vrai, mais ce fut seulement pour plonger dans la partie opposée de la route, au milieu d'un hallier d'aunes et de broussailles. le malheureux maître d'école y alla alors, en même temps du fouet et des talons sur les côtes décharnées du vieux Gunpowder, qui bondit en avant, reniflant et soufflant, mais vint s'arrêter tout court, juste auprès du pont, et si brusquement qu'il faillit envoyer son cavalier s'étendre tout son long par-dessus sa tête. En ce moment même, un bruit de pas s'enfonçant dans la bourbe du côté du pont frappa l'oreille tendue d'Ichabod. Il vit quelque chose de colossal, d'informe, de noir et d'imposant dans l'ombre épaisse du massif sur le bord du ruisseau. Cela ne bougeait pas, mais semblait ramassé dans l'obscurité comme un monstre gigantesque prêt à s'élancer sur le voyageur. Les cheveux du pédagogue, épouvanté, se dressèrent de terreur sur sa tête. Que faire? Tourner bride et s'enfuir? Il était maintenant trop tard. Et puis quelle chance avait-il d'échapper à un fantôme ou à un lutin, si tel il était, qui pouvait chevaucher sur les ailes du vent? Appelant donc à son aide un semblant de courage, il demanda d'une voix tremblotante « Qui êtes-vous ? » Il ne reçut aucune réponse. Il réitéra sa demande d'une voix encore plus agitée. Cette fois encore, il n'obtint pas de réponse. Une fois de plus, il laboura les flancs de l'inflexible Gunpowder et, fermant les yeux, entonna un air de psaume avec une ferveur involontaire. Au même instant, l'objet indécis de ses alarmes se mit en mouvement et, d'un effort, d'un bond, se planta tout à coup au milieu de la route. Bien que la nuit fût noire et lugubre, cependant on pouvait maintenant, jusqu'à un certain point, discerner la forme de l'inconnu. Il se trouva que c'était un cavalier de large carrure, monté sur un cheval noir à vigoureuse charpente. Il ne donnait aucun signe d'hostilité ni de sympathie, mais se tenait à l'écart sur le bord de la route et se mouvait lentement sous l'œil éteint du vieux Gunpowder qui avait enfin surmonté sa frayeur et son obstination. Ichabod, qui ne se sentait aucun goût pour cet étrange compagnon de minuit, et se souvenait de l'aventure de Brown Bones avec le espoir galopant, stimula son coursier dans l'espoir qu'il le laisserait derrière lui. Mais l'étranger fit prendre la même allure à son cheval. Ichabod ramena le sien et ne marcha plus qu'au pas, croyant bien qu'il serait dépassé. L'autre fit de même. Alors le cœur commença à lui manquer. Il s'efforça de reprendre son air de psaume, mais sa langue desséchée s'attacha au palais et il ne put seulement achever une portée. Il y avait quelque chose de mystérieux et de glaçant dans le silence bizarre et chagrin de cet obstiné compagnon. Ce silence eut bientôt son effrayante explication. En gravissant d'un monticule qui faisait se détacher vigoureusement sur le ciel la forme de son compagnon de route, d'une taille gigantesque et enveloppée dans un manteau, Ichabod fut saisi d'horreur en découvrant qu'il n'avait pas de tête. Mais son horreur s'accrut encore davantage en observant que cette tête, qui aurait dû reposer sur ses épaules, il la portait devant lui sur le pommeau de la selle. Alors sa terreur devint du désespoir. Il fit pleuvoir une grêle de coups de pied de ce horion sur Gunpowder, espérant par un mouvement soudain échapper à son compagnon. Mais le spectre partit du même élan que lui. Ils se précipitèrent alors en avant, sans s'inquiéter de rien, les pierres volant et les étincelles jaillissant à chaque bond. Les légers vêtements d'Ichabod flottaient au vent pendant qu'il projetait au-dessus de la tête de son cheval, dans l'ardeur de sa fuite, son grand corps efflanqué. Ils avaient alors atteint la route qui mène au vallon endormi. Mais Gunpowder, qui semblait possédé par un démon, au lieu de continuer à s'y maintenir, tourna bride et, descendant la colline, plongea tête baissée vers la gauche. Ce chemin conduit à travers un vallon sablonneux, ombragé par des arbres pendant un quart de mille environ. Et c'est dans cet endroit que se trouve le pont fameux dans l'histoire du fantôme. Et précisément au-delà se gonfle le tertre vert sur lequel est assise l'église aux murs blanchis à la chaux. Cependant, la terreur panique qui s'était emparée de l'animal avait donné dans la poursuite un avantage évident à son triste cavalier quand, juste comme il avait à demi traversé le vallon, les sangles de la selle cédèrent et qu'il la sentit s'échapper, glisser sous lui. Il la saisit par le pommeau et s'efforça de la tenir ferme. Mais en vain. Il n'eut que le temps de se préserver d'une chute en jetant ses bras autour du cou du vieux Gunpowder. Car une seconde après, la selle tombait à terre et il entendait son persécuteur la fouler aux pieds. Un instant, la terreur que lui inspirait le courroux de Hans Van Ripper traversa son esprit. Car c'était sa selle des dimanches. Mais ce n'était pas le moment des craintes légères. Le fantôme était là, sur son dos. Et, le malheureux cavalier qu'il était, il avait beaucoup à faire de se maintenir en place, glissant parfois d'un côté, parfois d'un autre, et quelquefois cahoté sur l'arête élevée de l'épine dorsale de son coursier, avec une violence qui menaçait, il ne le craignait que trop, de le séparer en deux. Une éclaircie au milieu des arbres vint le ranimer et lui faire concevoir l'espérance que le pont de l'église était proche. La vacillante réflexion dans le sein du ruisseau d'une étoile au fond d'argent lui prouva qu'il ne se trompait point. Il voyait les murs de l'église jeter de ténébreuses lueurs sous les arbres qui l'abritent. Il reconnut l'endroit où le fantôme rival de Brown Blount avait disparu. « Oh, mais si je puis seulement atteindre le pont, se dit Chabot, je suis sauvé !» Au même moment, il entendit le noir coursier qui haletait et soufflait tout derrière lui. Il s'imagina même sentir sa brûlante haleine. Un autre coup de pied convulsivement donné dans les côtes, et le vieux Gunpowder s'élança sur le pont. Il passa comme la foudre sur les planches retentissantes, gagna le bord opposé, et alors Ichabod jeta un regard derrière lui pour voir si son persécuteur s'évanouirait, suivant la règle dans un sillon de feu et de soufre. En ce moment même, il vit le fantôme qui se dressait sur ses étriers et qui précisément s'apprêtait à lui lancer sa tête. Ichabod essaya d'éviter l'effroyable projectile, mais trop tard. Elle rencontra son crâne avec un bruit épouvantable. Il fut renversé tout son long dans la poussière, et Gunpowder, le coursier noir et le cavalier fantôme, passèrent près de lui comme un tourbillon. Le lendemain matin, on trouva le vieux cheval, veuve de sa selle et la bride sous les pieds, qui, le plus gravement du monde, broutait l'herbe à la porte de son maître. Ichabod ne parut pas à déjeuner. L'heure du dîner arriva, pas d'Ichabod. Les enfants s'amassèrent devant l'école et vaguèrent paresseusement le long des bords du ruisseau. Pas de maître d'école. Hans Van Ripper commença alors à éprouver quelque inquiétude sur le sort du pauvre Ichabod et de sa selle. Une enquête fut ouverte et après d'actives investigations, on finit par tomber dans sa trace. Sur une partie de la route qui menait à l'église, on trouva la selle foulée aux pieds et couverte de boue. Des traces de sabots de chevaux profondément empreints sur le sol, qui dénotaient évidemment une course furieuse, furent suivies jusqu'au pont, au-delà duquel, sur un point du ruisseau où l'eau coulait noire et profonde, fut découvert le chapeau du malheureux Ichabod et tout auprès une citrouille en éclats. On fouilla le ruisseau, mais le corps du maître d'école ne se retrouva pas. Hans Van Ripper, comme liquidateur de la succession de ce dernier, procéda à la visite du paquet qui contenait toutes ses richesses en ce monde. Elle consistait en deux chemises d'homme et demi, deux cols, une paire ou deux de bas de laine, une vieille paire de hautes chausses en velours de coton à côtes, un rasoir rouillé, un livre d'air de psaume, plein de cornes et un diapason brisé. Quant aux livres et à l'ameublement de l'école, ils appartenaient à la communauté, à l'exception de l'histoire de la magie par Cotton Mather, d'un almanach de la Nouvelle-Angleterre et d'un livre traitant des songes et de la bonne aventure. Dans ce dernier se trouvait une feuille de papier potré griffonnée, rassurée, parfaite de plusieurs infructueuses tentatives pour faire une pièce de verre en l'honneur de l'héritière de Van Tassel. Ces livres, le gribouillage poétique, furent incontinent livrés aux flammes par Hans Van Ripper, lequel se promit bien de ne plus jamais envoyer de la vie ses enfants à l'école, faisant observer qu'il n'avait jamais rien vu sortir de bon de toutes ces satanées lectures et écritures. Ce que le maître d'école possédait d'argent, et il avait reçu sa paye du trimestre un jour ou deux seulement auparavant, il devait l'avoir eu sur lui au moment de sa disparition. Ce mystérieux événement causa bien des distractions à l'église le dimanche suivant. Des groupes de curieux et de commères étaient réunis dans le cimetière, sur le pont et à l'endroit où le chapeau et la citrouille avaient été retrouvés. Et les histoires de Brouwer, de Bones et toute une kyrielle d'autres revinrent en mémoire. Et quand ils les eurent toutes soigneusement considérées et rapprochées des indices qui se rencontraient dans le cas actuel, ils secouèrent la tête et finirent par conclure qu'Ichabod avait été enlevé par le S.O.A. galopant. Comme il était garçon et ne devait rien à personne, personne ne se cassa davantage la tête à son sujet. L'école fut transférée dans un quartier différent du vallon, et un autre pédagogue régna à sa place. Un vieux fermier, il est vrai, qui était dans une tournée, descendu jusqu'à New York plusieurs années après, et de qui l'on tient le récit de cette fantastique aventure, rapporta au pays la nouvelle qu'Ichabod Crane était encore vivant, qu'il avait quitté le voisinage tant par crainte du fantôme et de Hans Van Ripper que par mortification d'avoir été lestement congédié par l'héritière, qu'il avait établi ses quartiers dans une partie reculée de la contrée, avait tenu une école et étudié en même temps les lois, avait été admis dans le barreau, était devenu homme politique, avait travaillé les électeurs, écrit pour les journaux, et finalement avait été nommé juge de la cour des 10 livres. On remarqua aussi que Brown Bones, qui peu de temps après la disparition de son rival, conduisit en triomphe à l'hôtel la rougissante Katrina, semblait parfaitement renseigné toutes les fois qu'on racontait l'histoire d'Ichabod, et partait toujours d'un joyeux éclat de rire à la mention de la citrouille, ce qui fit soupçonner à quelques-uns qu'il en savait plus long sur ce sujet qu'il ne lui convenait d'en dire. Les vieilles ménagères, cependant, qui sont les meilleurs juges en ces matières, soutiennent encore aujourd'hui qu'Ichabod fut enlevé par des moyens surnaturels. Et c'est une histoire favorite, souvent racontée le soir dans le voisinage, autour du feu d'hiver. Le pont devint plus que jamais un objet de crainte superstitieuse. Et c'est peut-être là le motif qui a fait, il y a quelques années, modifier la route à ce point qu'on arrive maintenant à l'église par le bord de l'étang. L'école, étant abandonnée, tomba bientôt en ruine. On prétendit qu'elle était hantée par le fantôme de l'infortuné pédagogue. Et le laboureur, regagnant à pas lents son logis par une silencieuse nuit d'été, s'est imaginé souvent entendre sa voix dans le lointain, chantant un air de psaume mélancolique parmi les tranquilles solitudes du vallon endormi. Post-scriptum. Le récit qui précède est à peu près dans les mêmes termes que je l'ai entendu narrer à une séance de corporation de l'antique cité de Manatos, à laquelle assistaient nombre de ses plus sages, de ses plus illustres bourgeois. Le conteur était un aimable, très râpé, très aristocratique vieillard, aux habits poivre et sel, au visage tristement enjoué, un individu que je soupçonnais fortement d'être pauvre. Il faisait tant d'efforts pour être amusant. Quand il eut terminé son histoire, on rit et on applaudit beaucoup, surtout deux ou trois adjoints d'Aldermen qui avaient dormi la plus grande partie du temps. Toutefois, il eut un grand et vieux gentleman à l'œil sec, aux sourcils proéminents, qui conserva tout du long une figure grave et presque sévère, croisant de temps à autre les bras, inclinant la tête et baissant les yeux vers le parquet comme s'il retournait quelques doutes dans son esprit. C'était un de ces hommes circonspects qui ne rient jamais qu'à bonne enseigne, lorsqu'ils ont la raison et la loi de leur côté. Quand la gaieté du reste de la compagnie se fut calmée et que le silence se fut rétabli, il appuya un bras sur le coude de son fauteuil pendant que l'autre formait l'anse et demanda, avec un léger mais excessivement avisé mouvement de tête et une contraction du front, quelle était la morale de l'histoire et ce qu'elle voulait prouver. Le narrateur, qui était alors en train de porter un verre de vin à ses lèvres, comme un réconfortant après ses fatigues, s'arrêta pendant un moment, regarda son interrogateur d'un air de déférence infinie, et abaissant lentement son verre sur la table, fit observer que l'histoire tendait très logiquement à prouver qu'il n'y a pas de situation dans la vie qui n'ait ses avantages et ses plaisirs, pourvu seulement que nous voulions prendre comme il faut la plaisanterie. Or, que celui qui lutte à la course avec des cavaliers fantômes ne peut manquer d'être mené grand train. Ergo, que pour un maître d'école, se voir refuser la main d'une héritière hollandaise est un pronostic assuré de haut avancement dans l'état. Le vieux gentleman, circonspect, fronça les sourcils 10 fois plus fort après cette explication, étant grandement intrigué par l'emmanchement de ce syllogisme, tandis que, me sembla-t-il, le vieillard aux habits poivre et sel le regardait du coin de l'œil avec un certain air de triomphe. Il finit par faire cette remarque que tout cela était fort bien, mais qu'il jugeait néanmoins l'histoire quelque peu extravagante. Il y avait 2 ou 3 points sur lesquels il lui restait des doutes. « Ma foi, monsieur, répliqua le conteur, pour ce qui est de ça, je vous dirai que je n'en crois pas la moitié moi-même. »